France Musique. Les grands entretiens. Yvan Amar. France Musique.
Je m'appelle Bojan Zulfikar Pašić. Je suis né le 2 février 1968 à Belgrade, en Yougoslavie, et je suis musicien.
Bojan, on vous a laissé hier encore à Belgrade, mais déjà pianiste presque professionnel et vous commencez à jouer les standards. Quelques années après, je ne sais pas exactement combien, on vous retrouve à New York où vous allez travailler avec Claire Fischer. Comment ça s'est fait cette affaire-là? Comment est-ce que vous quittez ce qui est encore la Yougoslavie pour aller aux États-Unis quelques mois?
En gros, il a un personnage, un organisateur, un homme de la radio un peu comme vous, Mladen Mazur, qui était en Croatie, qui était contacté par un summer camp, art, fine arts camp, ils appelaient ça, donc, où il y avait donc tout genre de musique, et jazz notamment, qui se trouve à Michigan, pas à New York. J'ai terminé moi à New York après, en fait, par mon propre gré. Mais le cours où j'ai rencontré Claire Fischer se passe à Michigan. Et donc, ils ont offert une bourse pour la Yougoslavie entière et que les critères, c'était il ne faut pas qu'il a plus de 18 ans et qu'il joue déjà. Et disons qu'à cette année-là, des gars qui avaient 18 ans, pas plus, et qui jouaient déjà, bah, il y en avait un, c'était moi. Donc je correspondais effectivement à ça et c'est comme ça que j'ai eu... il a fallu quand même que je fasse un enregistrement.
Pour prouver.
C'est la première fois que je me suis retrouvé avec les micros à la maison à essayer d'enregistrer une démo, etc. Donc voilà, c'était assez marrant. Je suis parti en juillet 86. Je suis parti aux États-Unis, donc, et je suis passé 3 mois, c'est tout. Une très belle expérience, parce que disons que je me suis rendu compte que tout ce que j'ai appris lors de mes années obscures à Belgrade, que c'était plus que valable, effectivement, auprès de ceux qui ont généré cette musique.
Que vous appreniez par vous-même et sans aide extérieure. Par exemple, il n'y avait pas, j'imagine, en Yougoslavie à l'époque, ce qu'on appelle un real book, c'est-à-dire une...
Ah oui, le real book, c'est il y en avait.
Il y en avait.
Donc c'est la collection où on a tous les standards dans un seul bouquin. Donc il y en avait.
Avec juste la ligne mélodique et le chiffrage des accords.
Et le chiffrage des accords, voilà. Donc le fameux real book, mais il y en avait un. Seul. Et disons que la liste d'attente, vu qu'il y avait quand même, on va dire une cinquantaine de musiciens de jazz. Donc, ce qui faisait que la liste d'attente a été très longue. Je décide, au lieu d'attendre, de prendre, donc, un cahier à musique et de décrire, la trentaine ou un peu plus des morceaux sur lesquels je travaillais à ce moment-là. Et donc, pour chaque morceau, il a fallu écouter une dizaine de versions pour constituer effectivement ce que...
Donc, c'est presque des dictées musicales, mais d'un genre particulier, puisqu'on ne relève que la mélodie et qu'on chiffre soi-même les
accords. Tout à fait. Donc, il faut d'abord écouter, entendre la forme, savoir combien de mesures, etc. Mais en faisant ça, en fait, on se rend compte de tout le reste. Parce qu'on écoute la musique qui est jouée. Donc, on entend ce que fait le batteur, on entend la ligne de basse. On entend les arrangements qu'ils ont fait entre eux, donc il y en a autant de versions, autant d'arrangements. Et le résultat était assez marrant. Je pense que les morceaux que j'ai écrits moi-même dans ce real book, je vais jamais les oublier. Ce sont franchement les morceaux que je connais, mais je pense pour plusieurs vies à venir.
C'est lesquels les premiers? Le premier cercle de base.
Donc il y avait effectivement There Will Never Be Another You, Loverman. Il y avait Beatrice de Sam River. Mm-hmm. Il y avait Dolphin Dance. Et ça, c'est ma fierté,
ça,
parce que celui-ci, donc Dolphin Head de Herbie Hancock, ça m'a pris beaucoup de temps.
Harmoniquement, il est différent, justement.
Absolument. Absolument.
Parce qu'on a passé un.
Donc j'ai passé beaucoup de temps sur cet album-là. Après, il y avait donc l'album que j'adorais, c'était Live at the Club de Cannonball Adderley Sextet avec Xavi Niel. Donc c'est là qu'on avait Mercy, Mercy, Mercy. Il y avait Hippodelphia, donc un morceau qui est très peu connu, mais qui est très dur, sur lequel j'ai passé pas mal de temps à le relever, etc., etc. Mais en tout cas, ces morceaux-là, ils restent gravés, mais il n'y a rien qui se perd.
Vous arrivez aux États-Unis.
Exact.
Vous avez eu la bourse et vous arrivez où ça ?
D'abord à New York et puis changer l'avion à New York et aller à Chicago. Parce que Chicago, c'est là que je suis resté chez les amis de mes parents quelques jours pour me accommoder avant de partir dans ce camping artistique.
Et là, vous travaillez donc avec ce pianiste
que je ne connaissais pas.
Pas si connu que ça, mais qui est très connu pour être un pédagogue. Qui a fait
un
des
ouvrages,
des bouquins, des arrangements, etc. C'est Claire Fischer.
Donc Claire Fischer qui se retrouve, en fait, il est venu travailler avec le Big Band des profs. Moi, j'ai fait tout de suite une audition et je me suis retrouvé dans le Gold Jazz Band parce que j'avais apparemment, c'est là que je me suis rendu compte, ce que je vous ai dit, que tout ce que j'ai appris à Belgrade et lors de ma vie précédente a été plus que valable pour les Américains. Vu que je me suis retrouvé à être tout de suite propulsé dans le meilleur Big Band, donc il y avait Copper, Silver et Gold, donc selon les niveaux. Parce que chez eux, effectivement, la compétition, elle est très présente dans leur système d'éducation. Ce qui, à cet âge-là, n'est pas si mal que ça. Et assez rapidement, j'ai été spoté par le gars qui guidait ce Big Band-là, aussi comme quelqu'un qui connaissait presque tous les morceaux qu'il sortait. Donc je connaissais les intros, je connaissais les versions, je connaissais tout ça. J'ai dit, tiens, celui-ci, il est venu parce qu'il est intéressé vraiment. Ce qui fait qu'ils m'ont proposé, au bout de quelques jours, la place dans le Big Band des profs, dans lequel il y avait déjà un autre étudiant, qui avait 15 ans, mais qui était surdoué à cet âge-là, et c'est James Carter.
Ah.
Qui est devenu donc James Carter par la suite. Et donc c'est à ce moment-là, vu que Claire a été là pendant plusieurs jours pour travailler avec le Big Band de ses arrangements, C'est là qu'ils m'ont dit, mais il faudrait que tu le rencontres et que tu prends quelques cours avec lui. Et c'est à ce moment-là que je l'ai découvert. Et effectivement, son côté pédagogue qui était, mais tout de suite, il a trouvé la manière à me réveiller par rapport au voicing, par rapport à la manière de jouer l'harmonie, d'une manière très douce et très efficace.
Oui. Et il vous a beaucoup influencé, parce que je me souviens que, je pense, dans votre premier disque, il y a un morceau dont j'ai oublié le nom, mais qui commence sur un exercice harmonique de Claire Fischer.
Deuxième album. C'est le deuxième album. Ouais. C'est effectivement, je joue une chanson macédonienne, Zaidi, oui. Zaidi, et je démarre par son exercice. Bravo.
Et après, ça se balkanise en fait.
Après, ça se balkanise effectivement.
Ouais. De démarrer sur du Claire Fischer et de continuer 6 mesures après sur une espèce de danse balkanique, c'est un bon concentré de Boyan, ça.
Les grands entretiens de Boyan Z, France Musique.
Boyan, vous n'avez pas eu la tentation de vous installer aux États-Unis ?
Il y a deux choses qui m'ont frappé à ce moment-là. C'est que lors de ces 3 mois, mon rêve américain a été remplacé par la réalité américaine, qui est bien, bien différente de ce qu'on peut imaginer en regardant les films, en écoutant la musique, etc. etc. Et l'idée de vivre aux États-Unis ne m'a pas attiré. Disons que déjà à l'âge de 18 ans, donc l'âge que j'avais à ce moment-là, j'étais déjà européen, mais de conviction. Donc le fait d'imaginer de vivre loin de la Méditerranée, de la mer Adriatique, des Alpes, de l'huile d'olive, enfin bref, toutes les choses auxquelles j'étais profondément attaché, ces choses-là, effectivement, m'ont poussé à ne pas vouloir rester aux États-Unis. Et deuxième chose, j'ai dû terminer mon service militaire. Sinon, je serais labellisé comme déserteur, on dit.
Déserteur, oui.
Et mon père m'a dit, avant de partir aux États-Unis, tu ne fais pas ça parce qu'il va falloir que je te chasse, moi, à travers le monde, et ça, tu vas m'éviter ça. Donc, je crois que c'est la seule fois où je l'ai pris au sérieux et que je l'ai écouté. Je suis revenu et j'ai terminé donc mon école en n'allant pas au cours, juste en payant pour les examens, pour faire les examens. Et je l'ai terminé juste pour le terminer. Ils étaient sûrs qu'avec ça, je ne ferais rien. Moi, j'étais tout content parce que j'ai réussi à passer les examens. Et donc, je suis parti faire mon service militaire. Et c'est juste avant, à Grozny, que j'ai rencontré donc une Française qui est devenue ma première femme quelques années après. D'où, effectivement, toute la suite. J'avais aucune envie de partir faire mon service militaire, mais je n'ai pas réussi à me faire libérer. Parce que les gars, ils ont préparé ça beaucoup plus que moi, ceux qui ont été libérés. J'étais en pleine santé, c'est la première et la dernière fois que j'étais triste d'être en bonne santé. Donc voilà, donc je suis parti, je me suis dit, ok, on y va quand même. Ça durait un an, et pendant 2 mois, je faisais le soldat comme les autres. Et au bout de 2 mois, ils ont fait une audition, et je me suis retrouvé être le seul qui avait donc le conservatoire de musique avec le diplôme. Et ils se sont dit, bon, tu seras le chef de l'orchestre. Avec qui va jouer tous les soirs dans un espèce de club des officiers qui était une vitrine de l'armée yougoslave vers les civils. Donc c'était le prestige, on avait des uniformes magnifiques. Et c'est la première fois de ma vie que je me retrouve réellement et clairement le chef d'un orchestre. Ce qui n'était pas mal.
Qu'est-ce que ça veut dire alors être le chef d'un orchestre ? Vous écrivez les arrangements, vous décidez du répertoire.
Donc pour cet orchestre-là, ça voulait dire beaucoup de choses. Parce que tous les autres, c'était vraiment des musiciens débutants qui ont réussi à entrer dans cet orchestre.
Et qui étaient des jeunes soldats aussi.
Oui, par connexions. Piston. Et donc je me suis retrouvé avec un bassiste qui ne savait pas qu'il a 4 cordes de différentes épaisseurs sur la basse. Un guitariste qui, lui, encore, il était le meilleur, il connaissait 4 accords à la guitare. Clarinettiste qui, il savait jouer un peu, et il savait s'accorder. Un violoniste gitan, un batteur de heavy metal, qui regardait sa photo pendant un an avec les cheveux longs et pleurait. Alors, disons qu'avec ce groupe-là, pendant un mois, c'était très intense. Il a fallu, parce que sinon, on serait inexistant et puis on ferait retour sur terrain comme les autres soldats. Donc il a fallu quand même utiliser cette occasion, ce qu'on a fait. Donc on a monté tout un répertoire assez rapidement et on a commencé à jouer donc tous les soirs devant des gens. Et c'est là que commence l'année de mon expérience avec la musique que je n'aimais pas forcément. Donc la musique pop, mais alors la musique pop très cheap, et la musique folklorique, alors là tout passe. Sauf que la manière dont nous on essayait de le jouer, c'était un peu selon mes idées, etc. On essayait de le faire bien. Et donc je faisais travailler le bassiste pour qu'il soit bien ensemble avec le batteur, donc le groove, etc., etc. Et pour eux, c'était la grosse découverte.
Vous aussi, j'imagine, c'était la première fois que vous dirigiez un petit ensemble.
Tout à fait. Et on a réussi. Il y avait donc une compétition des orchestres de l'armée 6 mois après. Et on était les meilleurs, donc le groupe de cette région. Donc ce sont les petites choses qui ont beaucoup de signification quand vous passez un an dans un lieu où vous n'avez pas envie d'être. Donc disons que tout ça remplit mon temps et ma tête avec la musique. Et mon seule idée, c'était j'étais prêt à faire tout pour garder le contact avec piano et ne pas me retrouver à ne pas toucher le piano pendant un an. Ça dure un an et ça me fait une expérience et ça me fait rêver sur le fait que cette musique-là, donc les rythmes à 7 tons, 9 tons, etc., sur lequel des gens dansaient, que ça pouvait être quelque chose beaucoup mieux si c'est joué par le musicien de mon calibre, disons ceux qui connaissent aussi bien et la musique classique, et le rock, et le jazz, et le funk, et tout ça, etc. Parce que la musique en question, la musique folklorique, elle était quand même pas mal tournée vers les improvisations aussi. Presque chaque chanson, il y avait des solos de clarinette, de guitare, etc., de piano. Donc voilà, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, travailler ça avec des gars qui peuvent mener cette musique beaucoup plus haut, c'est en fait quelque chose qui m'intéresse. Bref, donc j'ai terminé cette année service militaire, j'ai gardé le contact avec la Française que j'ai rencontrée donc, avant, Et c'est comme ça que Paris s'est profilée. Elle était parisienne, donc.
Donc vos affaires de cœur vous entraînent vers Paris.
Je devais partir quelque part. C'était déjà sûr que je ne resterais pas à Belgrade. Parce que disons que à l'âge de 18 ans, je suis devenu le pianiste de Big Band de Radio Belgrade. C'est un peu le summum de la carrière d'un musicien de jazz.
Ouais.
À 18 ans, me dire que ça y est, c'est tout.
Et que ça va continuer jusqu'à 80 comme ça. Voilà. Donc il vaut mieux faire autre chose.
Donc il vaut mieux changer l'environnement. Et ouais. C'est pour ça que j'ai décidé, donc après c'était la question, est-ce que je vais quand même revenir aux États-Unis? Et franchement, j'avais pas envie de... Non, je me voyais pas vivre là-bas. Donc je me suis dit Allemagne, c'est des gens sont un peu fous, enfin, bref, etc. Après, ce qu'on peut imaginer. Bref, ça s'est profilé Paris, et je me suis dit, ah oui, Paris, bah ça va, j'ai étudié le français pendant 5 ans, peut-être que ça va me servir.
Yann, qu'est-ce que vous faites en arrivant à Paris? Vous êtes avec votre ami, vous êtes encore étudiant, vous voulez apprendre auprès de profs ou bien vous cherchez des écoles?
On a cherché les écoles à Paris, on a trouvé une école qui s'appelait le CIM. Voilà, donc je me suis inscrit là.
Le CIM, donc, c'est cette école, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à Paris, c'était même la seule à l'époque, je crois, dans le 18e, rue d'Oudoville, où on apprenait les standards, où on apprenait un jazz assez hard bop, disons, parce qu'il y avait deux écoles, il y avait l'IACP et le CIM.
Exact, l'IACP, effectivement, c'était la musique free.
Free.
Exact, et il y avait le CIM, effectivement, qui faisait venir beaucoup d'étudiants d'Europe, et pas que, qui rêvaient de se retrouver à Paris et de faire leurs études dans le jazz beaucoup plus conventionnel, donc les standards, etc., etc. Sauf qu'il y avait quand même pas mal d'ouvertures assez rapidement, mais qui ont été guidées vers les répertoires originaux. Donc c'est à ce moment-là, assez rapidement, quand je me suis retrouvé au CIM, mon prof, c'était Emmanuel Bex. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir la ville de Paris. Là, je pense que c'est assez important de souligner une rencontre qui d'ailleurs s'est faite à Belgrade. Quand j'avais 15 ans, j'ai rencontré, donc il y avait un guitariste qui est passé par Belgrade, un guitariste français. Et c'était un guitariste qui s'appelait, et qui s'appelle d'ailleurs toujours, Noël Akshoté, quoi. Et donc moi, au bout d'un mois à Paris, je commence à me renseigner un peu sur les clubs pour aller écouter des musiciens, etc. Et je regarde le programme de Sunset et je vois Noël Akshoté. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais je le connais. Voilà, je connais un gars qui joue, qui est déjà sur scène. Et donc, je suis venu l'écouter tout de suite. Il s'est rappelé de moi. Et à ce moment-là, on a passé la soirée jusqu'à 6h du mat. Il m'a fait tout de suite découvrir tous les clubs où on pouvait écouter du jazz, etc. Et puis il a commencé à me parler, à m'expliquer pareil.
Et c'est la grande époque aussi, vous mentionnez le Sunset, qui existe toujours,
oui.
Qui est donc ce
petit
club
opportun.
De la rue des Lombards. C'est la grande époque de ce qu'on appelle le petit top.
Le petit opportun. Où tous les soirs, les musiciens finissaient là et on faisait des...
Et au petit opportun, la plupart du temps, les gens en sortaient vers 5h, 6h, 7h du matin, puisque on jouait pour le public jusque vers 2h, 2h30. Et après, quand on était en forme, les gens faisaient le bœuf.
Exact.
Ça n'existe plus tellement aujourd'hui.
On parlait de ça il y a une dizaine de jours avec Simon Goubert, qui était l'un des premiers batteurs, parce qu'on vient de faire une séance d'enregistrement. Simon, il faisait partie des batteurs, les premiers batteurs que j'ai entendus dans les clubs. Il jouait avec Mickey Gallier, avec Albi Culaz, etc. Donc, et lui, il a connu Paris même avant. Et donc, on en parlait il y a quelques jours. Et il me disait que, effectivement, à cette époque-là, quand j'ai commencé à jouer dans les clubs, ça commençait à 10h30. Et on faisait 3 voire 4 sets d'1h15. Ce qui fait qu'on terminait à jouer à 4h du matin. Et c'est à ce moment-là qu'on commençait à boire les coups, à parler, etc. Donc oui, on terminait à 5-6 heures du mat. Et il m'a dit que quelques années avant, ça se terminait plutôt à 11 heures du mat.
Est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous avez été faire le bœuf à Paris?
Oui, je me rappelle. Effectivement, c'était à l'Eustache. C'était le bar qui était juste en face de l'église Saint-Eustache. Et c'était le lieu que tenait Didier, qui après a repris du Delambar. L'Aleph, elle coûtait 2 francs 50, n'est-ce pas? Donc c'était tout à fait quelque chose qu'on pouvait s'offrir. Et en même temps, à 2 mètres de nous, bah, on avait Michel Gralière. Comment on dit?
Graillet. Oui, voilà. On l'appelait Mickey, mais en effet, il s'appelait Michel Graillet.
Voilà. Pas mal de musiciens, Jean-Michel Couchet, Christophe Laborde. Enfin, c'était un peu des jeunes et des moins jeunes, mais qui étaient très actifs sur la scène des clubs parisiens. Et c'est à ce moment-là qu'il y a effectivement un piano qui s'est libéré, et puis ils m'ont demandé, et puis donc je me suis retrouvé à jouer. C'était vraiment le vrai début, parce qu'à partir de ces quelques soirées où j'ai joué pendant le jam session, que le téléphone a commencé à sonner.
Bojan Zulfikar Pašić, il a un petit peu plus de 20 ans quand son téléphone commence à sonner justement et qu'il entame une vraie carrière de jazzman en France, avec par exemple ses 2 premiers disques qui ont été enregistrés en quartet, hein, Julien Loureau, Marc Buronfos, François Merville et lui-même. Et par exemple ce She Dance qu'on vient d'écouter et qui figure sur son disque Yopla. Demain, rencontre avec quelques musiciens français, Noël Achoté, Julien Loureau, Henri Texier, Michel Portal. Et vous pouvez réécouter cet entretien sur francemusique.fr. Bojan Z, Gilles Blanchard, Arthur Gerbeau, Flora Sternadel, Yvan Amar.
À réécouter sur francemusique.fr.